Écoute, on va en jaser de Woodstock. Peut-être commencer par te demander dans quel contexte t'avais été envoyé là-bas. C'était-tu par rapport à la radio ou c'était vraiment de ton plein gré pour plaisir?
Ben, écoute, ce qu'il faut comprendre, peut-être d'abord pour comprendre Woodstock 99, il faut penser à Woodstock 69, qui est le Woodstock original, qui est comme l'événement Peace and Love par excellence à une époque où on voulait justement faire les plus grands rassemblements au nom de l'amour, au nom de la liberté, au nom de la musique. Puis les gens qui avaient créé cet événement-là, c'est pas des gens qui voulaient faire de l'argent, c'est des gens qui voulaient créer un statement de jeunesse, de musique, de culture, et somme toute, malgré le fait que les accommodations n'étaient pas extraordinaires, malgré le fait que beaucoup de gens sont rentrés gratuitement parce qu'à un moment donné, ils ont perdu le contrôle des entrées, et ça reste mythique, Woodstock 69, comme étant l'événement probablement le plus important de la période Flower Power, une époque où nos parents nous disaient que avec l'amour, ils allaient réussir à nous créer un monde nouveau. Ils ont manqué le coup en Saint-Cyprien, là, mais l'idée de base, c'était ça.
Mais est-ce qu'on l'a embelli 69, par exemple?
On l'a embelli. Si vous regardez le documentaire sur le Woodstock original, vous allez voir que fallait avoir pris beaucoup de drogue pour triper dans la boîte.
Mais lui, t'étais là.
Il n'y avait pas de toilette puis pas d'eau courante. Là.
T'étais là aussi?
Fuck you. Non, mais ce qui reste de Woodstock, c'est des performances légendaires de Jimi Hendrix, de Joe Cocker, de Crosby, Stills, Nash & Young, de Santana. Il y a des gens qui ont fait leur nom grâce à Woodstock 69. Puis, en 1995, on a tenté une première fois de souligner l'anniversaire de Woodstock. Puis, on avait fait ça un peu dans le même esprit, mais avec des artistes un peu plus adultes. Il y avait Peter Gabriel qui avait terminé la fin de semaine de Woodstock 1995. Il y avait quelques trucs qui avaient retenu l'attention à l'époque. Vous vous souvenez peut-être de Nine Inch Nails qui avait joué dans Boîte, des Red Hot Chili Peppers aussi. Puis en 1999, on avait décidé de vraiment tenter le gros coup et de faire un 3 jours avec 2 méga scènes pour créer un événement qui allait être plus gros que le Woodstock original. Puis, il y a peut-être bien des gens qui ont regardé le documentaire sur Netflix. Vous allez voir que c'est pas nécessairement dans le même esprit qu'on avait organisé tout ça.
On va se mettre dans l'esprit justement avant. Je trouve qu'il y a une façon de se mettre dans l'esprit de Woodstock 99 avant de sauter dedans.
C'est sûr que ça peut rendre du monde un peu cinglé, là, en déshydratation, là.
Ouais. Là, j'ai fait un grand détour, mais j'ai pas répondu à ta question de base. En 1999, on était 4 flots qui travaillaient dans une station de radio, puis on avait décidé de tenter le coup d'organiser un autobus pour partir de Québec, puis aller du côté de Woodstock, vivre l'événement. Il y avait moi, il y avait Julie Bélanger, qui est devenue une star à TVA. Il y avait Dominique Gagnon, qui était notre technicien informatique de l'époque et qui l'est toujours, je pense, du côté de Radio X. Et il y avait notre vedette de l'époque, Stéphane Stage-Lacroix. Puis on était les 4 à la tête de cet autobus-là. Et on n'était pas des habitués ni de voyage, ni d'organisation. Fait qu'à la base, on était très nerveux. Nerveux au point où, pendant toute la durée de Woodstock, j'ai pas pris une seule bière. Ça vous donne une idée?
Bien, voyons donc.
Parce qu'on avait un autobus en charge, puis un coup rendu là-bas. Tu sais, faut se rappeler, en 1999, on n'est pas capable de se texter, on n'a pas Internet. C'est vraiment pas la même façon de garder contact avec les gens de qui on était responsable. Fait qu'on était les 4 quand même relativement nerveux juste d'organiser notre voyage là à l'extérieur de ce que l'événement est devenu et ainsi de suite. Quand on est arrivé sur place, on a été estomaqué de voir la grandeur du site. On pouvait marcher une demi-heure pour se rendre d'une scène à l'autre et après ça, peut-être marcher un 40 minutes supplémentaires pour se rendre sur le site où il y avait nos tentes, parce qu'on arrivait là avec notre pack-sac, nos tentes, il y avait le terrain de camping où on s'installait, des centaines de milliers de personnes installées là-bas.
C'est ça, c'est quoi? 250 000 personnes à peu près qui peuvent rentrer sur le site?
Oui, exact. Et ça a pris à peu près 24 heures avant qu'on commence à perdre le contrôle, d'une part sur les installations sanitaires. Après ça, ça a été sur la bouffe en général, parce que les gens qui étaient venus là-bas, ça n'était pas amené énormément d'argent. Puis quand la bouteille d'eau est à 8 piastres, à l'époque, ce qui était une fortune, nous autres, on a fait partie des gens qui n'ont pas mangé beaucoup pendant les trois jours de Woodstock parce qu'on a priorisé l'eau. On est sur le terrain d'une base aérienne. Si vous êtes déjà allé sur une base aérienne, il y a une chose qu'il n'y a pas, hein, c'est de l'ombre. Donc, c'était comme 250 000 personnes sur une immense plaque barbecue, puis on cuisait toute la gang comme des œufs. Fait que c'était important de bien s'hydrater. Puis dans ce temps-là, on fait des jokes de bière, mais ça hydrate pas full. Fait qu'on a comme priorisé l'eau. L'immensité du site et l'immensité de l'événement, encore aujourd'hui, des années plus tard, c'est dur à décrire.
C'est la faute à qui que la marde est pognée autant? Tu parles du prix des...
Fred Durst.
Ouais, ben c'est sûr qu'éventuellement, on va en venir à Fred Durst qui a pas aidé la cause. Mettons qu'il a mis de l'essence sur le feu. Mais à la base, c'est-tu vraiment le prix de l'eau ou il y a autre chose? Il y a l'organisation, il manquait de sécurité?
C'est un ensemble de facteurs. Je pense qu'à un moment donné, les gens qui arrivaient là voulaient vivre leur moment peace and love. Puis quand ils se sont rendus compte que ça allait pas être ça, les gens ont commencé à protester. Moi, je me souviens d'une œuvre d'art qui a été faite par des gens qui étaient là. Je pense que je l'avais dans mes photographies d'époque, mais on avait fait Woodstock avec des signes de pièces, avec toutes des bouteilles vides pour montrer justement que là, c'était plus une entreprise financière pour traire de l'argent à des amateurs de musique que l'entreprise Peace and Love de l'époque. Le fait qu'il faisait très, très chaud, le fait que, évidemment, des gens... Tu sais, les gens vont à soirée techno du festival d'été, puis il y en a qui se maganent au point de se ramasser du côté des ambulances. Imagine-toi après trois jours. Fait que c'est sûr et certain que ça a contribué à créer un climat qui était de moins en moins agréable. Faut vous dire que pendant les trois jours, il a fait soleil, puis il a fait entre 40 et 45 degrés Celsius. Et après la première journée, les sites d'eau courante et les sites de toilettes, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. C'était rendu des immenses marais de merde.
Oh, les toilettes non plus!
Ah non. C'était, pour vrai, c'est devenu un immense bordel à ciel ouvert. Fait que, tu sais, il y avait plein de petites accumulations de frustration et parce que c'est un des moments marquants de cette édition-là de Woodstock, on pourrait parler de musique, là. Je pourrais vous parler du show extraordinaire que Kid Rock a donné, je pourrais vous parler de la première soirée qui pour moi a été légendaire, tu sais, Korn, Rage Against the Machine et Metallica qui se sont succédés.
Pis ça allait encore.
Écoute, le premier soir, si ça se terminait le vendredi soir, tout le monde repartait content avec des beaux souvenirs. Là,
ah, parce que Korn était très, 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 très attendu aussi, là.
Ben, je fais partie des gens qui tripaient très fort sur Korn à l'époque, puis la fin de ma conversion pour Korn, ça a été cette performance-là. Ils ont volé le show à tout le monde, Korn, c'est pas compliqué. Si on parle juste de musique, Korn a volé le show à Rage Against the Machine, Metallica, Limp Bizkit et tous les autres gros noms qui étaient là, si on parle simplement de musique. Maintenant, évidemment, le samedi après-midi, le monde commence à avoir chaud, le monde commence à avoir soif, le monde commence à être sale, le monde commence à être drôlement magané. Et Limp Bizkit entre sur scène avec un Fred Durst qui avait peut-être senti tout ça puis avait décidé de profiter de l'événement. Un, pour se faire un nom, puis deux, peut-être pour vérifier jusqu'où il était capable d'aller avec une foule et l'agressivité pendant la performance de Limp Bizkit a monté très rapidement. Puis je vous cacherai pas que 25 ans plus tard, je peux encore vous dire que moi j'ai jamais fait la guerre, je suis jamais allé en Afghanistan, je suis un petit gars peureux de Saint-Fulgence, là. Mais je compte sur les doigts d'une main les moments où j'ai eu peur pour ma vie. Ça, là, pendant que Limp Bizkit part Break Stuff, qu'on voit des clôtures se faire arracher, qu'on voit des mouvements de foule où tu vois des têtes disparaître parce qu'ils sont littéralement pilassés par des gens, tu sais, là, j'ai eu peur pour ma vie, legit. Et on était les quatre, on s'est regardés et on s'est dit, faut se reculer parce que là, on va pogner dans le feu, là. Fait qu'on s'est reculé énormément pendant que beaucoup de gens avançaient. Puis là, ben, on a vu le théâtre dégénérer littéralement avec des gens qui, justement, arrachaient les clôtures du site pour faire du surf sur la foule.
Quoi à ce moment-là, hein?
Ben là, c'est weird, hein, parce qu'avec du recul, tu te dis, mais comment est-ce qu'on a fait pour pas sacrer notre camp? Puis en même temps, t'es là, t'as l'impression d'assister à quelque chose qui est unique, puis tu te demandes jusqu'où ça va aller. Mm. Mais ça n'a même pas été le moment le plus effrayant, parce qu'à un moment donné, la performance musicale s'est arrêtée, puis tout le monde a retrouvé ses esprits un peu. C'est vraiment la fin du festival que ça a été une nuit épeurante pour probablement tout le monde. Là, quand les hélicoptères de l'armée sont venus survoler le site qui a été mis à feu et à sang par les festivaliers, parce que c'est comme ça que ça s'est terminé, Woodstock 99. Le band qui a terminé l'événement le dimanche soir, c'était les Red Hot Chili Peppers. Sur le site, il y avait énormément de rumeurs qui circulaient que les organisateurs de Woodstock, pour se faire pardonner une fin de semaine difficile, gardaient une surprise. Puis là, ben, il y avait beaucoup de bouche à oreille. Il y en a qui disaient que c'était les Rolling Stones qui allaient être là. Il y en a qui disaient que c'était les Beatles survivants qui allaient se réunir. Tout le monde s'attendait à quelque chose d'historique, quelque chose de marquant. Et quand les gens se sont rendus compte que ça allait juste être le show, c'est pas pire, là, mais juste le show des Red Hot Chili Peppers, là, le bordel a repogné, puis a repogné solide. Quand les Red Hot Chili Peppers ont eu la plus ou moins brillante idée de faire leur cover de la pièce Fire, ben, il y a des gens qui ont vu ça comme un signal, et un peu partout, on a commencé à mettre des feux sur le site, des feux qui ont grandi en expansion très, très, très rapidement. Et quand on est allé se coucher, nous autres, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, là, on va retourner dans notre tente, on va zipper ça, puis on va espérer que demain, tout ça sera mieux.
Vous n'aviez pas peur de brûler?
oui, effectivement. Puis quand on a quitté vers la tente, là, on a vu que le feu était pris sur la scène principale. On a vu des blocs de téléphone qui étaient en feu aussi, des concessions qui étaient saccagées par les festivaliers, énormément d'agressivité partout. Puis moi, la dernière chose que j'ai vue avant de fermer la porte de la tente, c'est vraiment des hélicoptères de l'armée américaine qui commençaient à survoler le site. On a réussi à s'endormir parce qu'on était épuisés. Ça a été une fin de semaine qui a été quand même assez éprouvante physiquement, mentalement, au niveau des émotions. Mmh. Puis le lendemain matin, quand on a rouvert la tente puis qu'on a regardé autour de nous autres, tout ce qui restait, c'était une dompe à ciel ouvert. Les deux scènes fumaient encore. Vous voyez ces images-là dans le documentaire de Netflix. Audrey, as-tu réussi à remettre mes photos sur nos affaires, nos réseaux sociaux?
Oui, tout ça est sur Instagram. Si vous avez une curiosité, là, ça s'appelle carrément Woodstock 99, les petites bulles là, sur notre profil. Puis vous avez toutes les photos d'archives que Denis a prises à l'époque. C'est vraiment impressionnant.
Puis là, on se demandait, à partir de ce moment-là, notre autobus va-tu réussir à nous retrouver? Oui. On est dans un bordel. Je me souviens d'avoir fait une chronique à radio. L'information voyageait un peu moins rapidement à l'époque, puis on expliquait ce qu'on avait vécu dans les 24 dernières heures. Puis au Québec, on n'avait pas vu encore d'images. Puis les gens à qui je parlais avaient de la misère à croire à ce qui s'était passé sur le site. Puis quelques heures plus tard, sur les réseaux américains, CNN et ainsi de suite, on a commencé à voir l'étendue des dommages. Mais on a été les premiers à le vivre et à le constater. Puis il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises de cet événement-là. Je pense que les festivals modernes, maintenant, pensent pas mal plus au confort des festivaliers sous plusieurs aspects, parce que il n'y a pas un organisateur de festival qui veut se retrouver avec ce que Woodstock est devenu pendant cette fin de semaine-là, tu sais.
Je voyais aussi qu'entre autres, tu sais, ça a été la fin des tarifs uniques, là, avec tout le monde à la même place. On a commencé à créer des sections pour essayer de répartir les gens aussi, dépendamment du type de crowd que tu voulais. Fait que c'est sûr que ça a quand même eu un impact marquant, là. J'ai le goût de te demander, somme toute, là, avec du recul, c'était quoi la plus grosse différence entre 69 puis 99? Est-ce que les influences, peut-être, au niveau des gens aussi étaient différentes? Est-ce que ça peut être un facteur au-delà du festival en soi qui a voulu faire de l'argent? Les mentalités, ben, je veux dire.
Peut-être au-delà des blagues, là, juste préciser, là, je n'étais pas à Woodstock 69. Là,
j'étais
même pas une idée à cette époque-là, quand même.
Il tient à rassurer le monde, pas si vieux que ça, là.
Mais ça, évidemment, on retient le côté un peu plus métal puis agressif de performance comme Limp Bizkit, mais il y avait quand même Jewel, qui a fait une excellente performance à quelque part dans la fin de semaine sur une des scènes principales. Il y avait le Brian Setzer Orchestra qui est venu faire un show. Je veux dire, c'était pas... tu sais, musicalement, c'était pas ciblé pour devenir agressif, mais on a vu que cette génération-là, la génération Jackass, la génération South Park, la génération MTV, c'était une génération qui se manifestait beaucoup avec de l'agressivité. Puis on le voyait dans les foules à cette époque-là. Puis ça, ben, il n'y avait pas personne qui était en mesure de le prévoir nécessairement. Ça fait partie de l'équation. Tu sais, c'est pas une génération qui grandissait de la même façon que celle de nos parents dans les années 60. Les idéaux n'étaient pas les mêmes. La façon d'interagir avec la génération d'avant, c'était pas la même chose non plus. Puis on s'est rapidement retrouvé dans un esprit de confrontation puis d'agressivité qui était probablement pas présent dans le Woodstock 1969, au-delà des gens de la municipalité qui recevait l'événement, qui était un peu dépassé. Puis ça, c'est drôle, parce que dans le Woodstock original, t'en vois là, des petits messieurs qui sont sur le chaise berçante, puis qui en reviennent pas de voir des gars avec des cheveux longs, tu sais. On part de là quand
de
même.
Loin.
Là. Mais dans le cas de puis c'est malheureux que l'aspect qu'on retienne le plus de Woodstock 99, c'est le fait que ça a dégénéré, puis c'est pour ça que c'est passé à l'histoire. Mais il y a quand même des bandes qui ont explosé grâce à cet événement-là. C'est intéressant aussi d'entendre des gens qui, avec un peu de recul, ont appris, pas seulement au niveau de l'organisation d'événements, mais au niveau de... Un band a un certain contrôle sur sa foule, puis ils sont un peu responsables de ce qui se passe autour dans une certaine mesure. Un des intervenants les plus intéressants dans le documentaire de Netflix, c'est Gavin Rossdale de Bush, qui faisait partie de la distribution, puis des gens qui ont donné des spectacles, qui a quand même plusieurs réflexions intéressantes sur le fait que, à un moment donné, quand tu te rends compte que ça va pas bien autour de toi, t'es un peu responsable de remettre le fun dans la place, puis de pas rajouter de feu ou d'agressivité. En contrepartie, les Red Hot Chili Peppers ont rien fait pour que le feu pogne. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Fait que, tu sais, on peut blâmer Limp Bizkit tant qu'on veut. Ça a été un exutoire pour plusieurs. Puis oui, Fred Durst aurait pu faire plus attention. Mais les Red Hot Chili Peppers ont rien fait pour faire monter l'agressivité. Puis l'agressivité a monté quand même parce que l'événement, à la base, était mal organisé et peut-être pas avec les bons objectifs. Quand ta pointe de pizza est à 12$ il y a 25 ans, puis que ta bouteille d'eau est à 8$ US, t'es pas dans un mood peace and love, tu sais.
Non, totalement. Hey, Don, merci d'avoir pris le temps pendant tes vacances ce matin. Je trouve ça super intéressant. Chaque fois qu'on revisite tes souvenirs, je veux rappeler aux gens qui nous écoutent, parce qu'on reçoit des textos au 971-1021, l'album de Denis est sur Instagram dans la petite bulle Woodstock 99. Ça fait 25 ans aujourd'hui que le festival commençait. C'était du 22 au 25 juillet 99. Il y a bien des réflexions à entamer. Tu as parlé beaucoup du documentaire. Je veux le rementionner. Trainwreck, Woodstock 99 sur Netflix, 3 épisodes de 45 minutes. J'avais 4 ans. J'ai pas vécu Woodstock 99, mais quand tu regardes le documentaire, ça donne une idée de l'ampleur. Parce que, tu sais, des fois, les gens en beurre épais, quand tu vois les images, tu te rends compte qu'il y a personne qui beurre épais puis que ça a viré vraiment en catastrophe, là.
Ah oui, puis le documentaire le dépeint très bien. Il y a personne qui exagère sur le niveau de dangerosité puis le niveau de dégénérescence à un moment donné que cet événement-là a atteint. Puis, tu sais, juste par curiosité, Audrey, on est 25 ans plus tard. Nous autres, on est allés là avec un autobus au complet de gens de Québec. Y en a-tu, là, qui nous écoutent ce matin, qui étaient dans cet autobus-là? Comment ils ont vécu leur Woodstock? Ça m'intrigue parce que, veux pas, quand on a repris l'autobus en direction de Québec, on avait toute l'impression qu'on venait de vivre quelque chose de spécial.
Les survivants.
Oui, exact. Les premiers survivants bien avant la série Survivor. mais s'il y a des gens qui étaient là, qui nous écoutent ce matin, c'est quoi leur souvenir, c'est quoi leur perception de ce qu'a été cet événement-là? Je serais quand même curieux de vous lire et de vous entendre.
Là, il y en a qui veulent que tu rassures, là, t'as réussi à récupérer tout ton petit monde, là.
Tu veux dire là-bas?
Sur le retour.
Ah, j'espère que oui, on les a comptés. Je sais pas si on a tous ramené les mêmes qui sont partis avec nous autres, mais...
L'autobus était plein.
Mais tu sais, il y avait du monde dans cet autobus-là. Moi, je me souviens. Tu sais, nous autres, on était quatre flots de l'organisation de voyage, on n'avait jamais fait. Puis on avait un peu par-dessus la tête, mais on avait des gens dans cet autobus-là qui en avaient vu d'autres, là, qui en avaient fait des voyages, qui en avaient vu des shows, puis ainsi de suite. Puis eux autres aussi, il y avait la face longue quand on est reparti en regardant le site qui a brûlé littéralement. Tu sais, tu te lèves le lendemain, les deux scènes, tout ce qui reste, c'est des cendres.
Ouais.
C'est quand même particulier. Puis il y a une photo qui je trouve, résume tellement bien la fin de semaine de Woodstock. Pour les gens qui vont aller voir les photos, regardez comme faut. Il y en a une où tu as l'impression que tout ce qui reste, c'est des tentes saccagées, des détritus, des lacs de merde et ainsi de suite. Mais dans tout cet horrible paysage-là, vous allez voir un gars sous-mort qui dort.
Paisiblement.
Paisiblement. Lui bon. il vit sa best life, proche de vandalisme, de merde et ainsi de suite. Mais je trouve que cette image-là représente probablement le mieux ce qu'a été le lendemain de veille de Woodstock il y a 25 ans. Ouais.
Hey Dan, je te